Bonjour à tous, voici l'Esprit Public, prendre le temps de revenir sur les débats de la semaine politique et géopolitique avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, pendant une heure, nous sommes avec les journalistes Christine Ockrent et Gérard Courtois, l'économiste Daniel Cohen et l'essayiste Philippe Manière. Bonjour à tous les quatre au sommaire de nos échanges. Gilets jaunes un an après, malaise étudiant, grève du monde hospitalier, annonce d'un 5 décembre de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous tenterons un diagnostic de cette ou de ces colères françaises. Et puis en cette semaine de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, et tandis que la Turquie annonce le renvoi de djihadistes français, nous verrons comment le djihadisme s'est invité dans nos vies sur tous les continents. Djihadisme, le mal du siècle. Un étudiant lyonnais s'est immolé par le feu vendredi 8 novembre devant les locaux du Crous, après avoir laissé un message indiquant que son geste était motivé par des difficultés financières, visait volontairement un lieu politique et par extension le gouvernement. L'événement a déclenché beaucoup d'articles cette semaine sur les conditions étudiantes en France, avec les inévitables batailles de chiffres, ceux citant celui des 20% d'étudiants vivant sous le seuil de pauvreté, et à l'inverse, ceux rappelant que la notion d'abandon par l'État était à relativiser, la France dépensant 13 900 euros par an en moyenne pour un étudiant, contre 13 400 dans l'OCDE, et dépensant deux fois plus que les autres pays de la même zone pour les aides au repas, transport et logement des étudiants. Même genre de décalage avec la colère des professionnels de l'hôpital public entendue également cette semaine. Tout le personnel hospitalier est allé manifester jeudi 14 novembre dans toute la France pour dénoncer une situation jugée intenable et exiger davantage de moyens et d'effectifs. Au même moment, dans son panorama de la santé 2019, l'OCDE décernait un satisfecit à la France et notamment à la grande qualité des soins délivrés par ses hôpitaux, rappelant au total les dépenses pour se soigner qui représentaient 11,2% du PIB, l'une des proportions les plus élevées de l'OCDE où la moyenne est de 8,8%. Malgré la chasse au lit conduite ces dernières années et le développement des soins ambulatoires, l'offre hospitalière est plus large que chez nos voisins. Avec un ratio de 182 lits pour 1000 habitants, la France est mieux dotée que le Canada ou le Royaume-Uni, mais moins bien que l'Allemagne, le pays du tout hôpital. L'OCDE souligne cependant que les mesures d'économie conduites ces dernières années réduisent les marges de manœuvre des services et que les salaires des infirmiers spécifiquement ont fait les frais de ces politiques d'austérité. À l'hôpital, leurs rémunérations sont ainsi inférieures à celles pratiquées dans les autres pays. De la rationalité froide des chiffres dans les rapports au ressenti de ceux qui vivent ces situations au quotidien. Colère hospitalière, colère étudiante, colère de ceux qui se préparent le 5 décembre prochain à protester contre la réforme des retraites. Un an après la crise des Gilets jaunes, comment caractériser cette ou ces colères françaises et surtout, comment les apaiser ?
Ce qui se passe dans les services hospitaliers, c'est que les conditions de travail se sont dégradées à un point tel que les soignants commencent à quitter et de plus en plus l'hôpital. Et ce qui a déclenché ce mouvement, en fait, c'est ce qui se passe actuellement au Parlement. Les Français ne sont pas forcément au courant que chaque année, au même moment, le Parlement, leurs élus, votent le budget de l'hôpital. Ils votent un budget qui est, à chaque année, depuis maintenant au moins une dizaine d'années, très nettement en dessous des besoins.
La quantité de travail augmente significativement, avec de moins en moins de personnel. Dans des services de médecine aiguë, on se retrouve avec un infirmier pour 15 malades. Autant vous dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait une urgence vitale sur ces 15 malades-là, parce que les 14 autres patients vont se retrouver avec des soins en retard.
Voilà, un chef de service hospitalier et une infirmière entendus cette semaine sur les ondes de Radio France. Je précise qu'Agnès Buzyn puis Emmanuel Macron ont promis en réponse un plan de soutien qui mettra l'accent, je cite, sur un meilleur investissement courant et la revalorisation des salaires, notamment en début de carrière. Et ces annonces sont attendues pour mercredi. Gérard Courtois, il y a une espèce de consensus national à dire qu'il faut aujourd'hui faire quelque chose pour l'hôpital public à la française, alors même que je citais ce satisfecit décerné par l'OCDE. C'est la colère qu'on a entendue d'un modèle français qui périclite ou qui vit une crise d'adaptation?
Je crois que c'est plus large que ça, parce que on voit bien qu'il y a une juxtaposition de multiples colères. D'abord, la première chose, c'est que la colère est un ressort absolument caractéristique de la démocratie française, du système, de la mécanique démocratique française. Depuis 68 jusqu'au Gilet jaune, la liste est longue. Pourquoi ? Parce que la rigidité de la démocratie, du système démocratique politique et la faiblesse de la démocratie sociale font que quand les gens ont le sentiment de ne plus être entendus ou de ne plus être écoutés, ils pensent que la meilleure façon de s'exprimer, c'est d'aller dans la rue, d'aller manifester, y compris violemment. Et ils n'ont pas forcément tort, puisque ça marche. Ça marche au sens où, bien souvent, quand il y a une réforme qui cristallise une opposition ou une révolte, elle est retirée. Et quand ça n'est pas... Et ça peut aller de pair avec le déversement de milliards d'euros pour essayer d'éteindre l'incendie de la part du gouvernement. Ce qui est compliqué aujourd'hui, me semble-t-il, au-delà de... Je vais venir d'un mot sur la révolte ou la colère hospitalière. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a trois types de colères différentes qui se superposent. Je pense qu'il y a une colère spécifique, typique, enfin, ou caractéristique, une sorte de sans-culottisme contemporain, moderne, les gilets jaunes, dont les braises ne sont à l'évidence pas éteintes. On le voit, plus de la moitié des Français continuent à considérer que ce mouvement était un mouvement positif, qui a apporté quelque chose à la démocratie. S'y ajoutent des colères multiples du service public. Multiples. On parle de l'hôpital, on a vu les pompiers, on a vu les policiers, j'en oublie sûrement, les transports évidemment, SNCF et RATP qui s'apprêtent à entrer en grève de manière illimitée, ou en tout cas renouvelable, reconductible à partir du 5 décembre. Et tout ça dessine, si on y ajoute le malaise ou la grogne dans l'éducation, exactement le socle entier du service public français, du système de solidarité qui sur lequel est fondée la République. Et en plus, vous y ajoutez, vous l'avez dit, Émilie, le risque d'un embrasement de la jeunesse étudiante, dont on sait que tous les gouvernements redoutent absolument ce genre de situation. Voilà. Donc pour corser la situation du gouvernement, ces colères diverses, ces ressentiments différents ont un objet fédérateur possible, on verra, qui est la réforme des retraites. Parce que cette réforme touche tout le monde. Elle touche les jeunes, elle touche les vieux, elle touche les RATP ou les régimes généraux. Elle touche tout le monde, d'une manière ou d'une autre, en positif. Mais ça, personne ne le dira, ou en négatif, et tout le monde s'en plaindra. Donc il y a une possibilité de cristallisation de ces différentes révoltes ou de ces différentes colères à partir du 5 décembre, c'est évident.
Daniel Cohen, soit de façon générale sur ce socle entier du service public à la française, comme le dit Gérard Courtois, qui se réveille et qui est en colère en ce moment, soit sur cette colère spécifique du service public hospitalier, qu'est-ce qu'il nous dit de la France ?
Alors, moi, je pense que, pour le coup, ce serait une erreur de croire que c'est une nouvelle manifestation de la spécificité française. Ça fait 2-3 mois que partout dans le monde, on voit quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu l'année dernière avec les gilets jaunes. On l'a vu à Santiago du Chili, où on a augmenté la taxe sur les métros, les gens sont sortis. On l'a vu à Beyrouth avec une taxe sur WhatsApp. On voit partout, il y avait d'ailleurs plusieurs articles dans la presse internationale qui faisaient systématiquement la comparaison, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est perçu comme ça en dehors des frontières françaises, avec les yellow jackets, ce qui est devenu un terme à peu près aussi emblématique de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde que pouvait l'être May 68, French Student, etc. à l'époque.
Donc, et ce grand malaise mondial, il s'appelle
donc,
comment ?
Donc, le grand malaise, le grand mal-être mondial, dont le populisme est partout l'expression, ce que les enquêtes et les comparaisons montrent, c'est que à chaque fois, la montée des votes anti-système, de gauche ou de droite, est très intimement corrélée à cette poussée de mal-être qui s'observe aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans toutes les régions qui sont concernées par cette montée-là, dont les gilets jaunes ont été une des manifestations originales, puisqu'on y trouvait des électeurs des abstentionnistes, des électeurs de Mélenchon et des électeurs de Le Pen, en tout cas parmi ceux qui soutenaient très fortement le mouvement. Donc il y a quelque chose qui s'observe partout. Donc il y a évidemment des spécificités français, je suis d'accord avec ce que disait Gérard, évidemment, mais attention, là, pour le coup, il y a quelque chose de beaucoup plus général qui s'exprime. Qu'est-ce qui s'exprime ? Ben, ça fait 30 ans que le mur de Berlin est tombé, qu'on n'arrive pas à trouver un nouveau modèle de croissance inclusive qui fasse que on se sente porté, comme on l'avait été dans les Trente Glorieuses, par le sentiment d'une prospérité partagée. On est dans un monde où partout la croissance est beaucoup plus inégalitaire, beaucoup moins inclusive, où les classes moyennes partout perdent du terrain, parce que c'est là que se joue au fond l'essentiel des rationalisations d'emploi. On a une société qu'on dit de plus en plus polarisée, et cette polarisation, c'est-à-dire le très haut qui gagne beaucoup, le très bas qui a des emplois peu qualifiés, et les tâches intermédiaires qui s'affaissent un peu partout, ce phénomène de polarisation, il a été documenté par les économistes comme vraiment une norme universelle. C'est ça, je crois, qui explique ce profond mal-être, ressentiment qui est vécu par encore une fois, toutes ces régions qu'on pourrait croire aisées. Ça n'est pas les régions les plus pauvres du monde qui se révoltent. Ce sont des régions qu'on pourrait croire rattrapées par la prospérité, mais qui en réalité, par rapport à leurs attentes, qui sont constamment frustrées, ne le sont pas. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le point.
C'est ce modèle de croissance non inclusif, je vous ramène à la France, Christine Ockren, qui expliquerait ce décalage entre les bons chiffres que je citais à l'instant, des rapports de l'OCDE sur nos services publics à la française, et ce ressenti français est évidemment fort différent.
Oui, mais pour rejoindre Gérard Courtois, je crois qu'il y a un tempérament français que les normes de l'OCDE ne prennent pas en compte, manifestement, et c'est un tempérament éruptif et de contestation permanente de toute forme d'autorité. Quels que soient les engouements passagers ou non, moi je suis très frappée par l'espèce de communion que nous avons observée avec tout le respect et l'affection rémanente qui lui est due lors des obsèques de Jacques Chirac, et l'espèce d'élan de tendresse à la mort de Raymond Poulidor. Et je trouve que ces manifestations de communion nationale, couplé avec ces éruptions de colère que vous avez très bien décrites dans plusieurs secteurs de notre société, avec chaque fois, comme le dit Daniel, en fait les crispations des classes moyennes qui sont les perdantes un peu partout de la mondialisation, je trouve que cette spécificité française a encensé un président très aimé, mais qui franchement n'a pas suffisamment réformé le pays au moment où il avait tous les moyens de le faire, et c'est ce que paie aujourd'hui Emmanuel Macron, parce que dans tous les compartiments du jeu il y a une accumulation d'absence de réformes ou d'absence de pédagogie des réformes, et Raymond Poulidor l'éternel perdant. C'est extraordinaire à un moment où on insiste sur la nécessité, les urgences avec ce qu'elles ont d'ailleurs d'extraordinairement inégalitaire qu'impose la mondialisation et le fait que on sait ce qui se passe ailleurs. Et là où je ne rejoins pas Daniel, c'est sur cette idée que la situation serait véritablement identique du Chili au Liban, etc. Il y a quand même à chaque fois, me semble-t-il, des spécificités propres, surtout au Chili et surtout au Liban, dont nous parlions d'ailleurs ici même il y a quelques dimanches. Mais encore une fois, je trouve que voilà, Jacques Chirac, Raymond Poulidor, il y a une espèce d'extraordinaire raccourci, au fond, des tendresses françaises au milieu de toutes ces colères.
Philippe Manière.
Non, mais est-ce qu'il y a une spécificité française? La réponse est évidemment oui, pour des raisons historiques. Et bon, on peut constater, il y a tout de même, je crois, des échos et des points communs entre ce qu'on a vu en France, qu'on peut voir encore en France, et ce qu'on voit dans d'autres pays. Alors d'abord, constatons que il y a des pays où ça va quand même. Daniel a raison de dire qu'il y a une interrogation dans une grande partie du monde sur l'opportunité, la possibilité de continuer à avoir une croissance inclusive. Enfin, d'abord, j'observe que la France est l'un des pays où les inégalités ont le moins crues, elles ont même, en gros, elles sont restées au même niveau, ce qui est presque fait de la France presque une exception. Enfin, il faut comparer avec beaucoup d'autres pays, et évidemment le Royaume-Uni, les États-Unis, mais même un certain nombre d'autres pays traditionnellement plus égalitaires, vous avez une augmentation considérable des inégalités. Ça n'est pas le cas en France. Alors il y a des signes un peu iconiques. Il y a les milliardaires, il y a la problématique évidemment des plus précaires des Français. Mais d'un point de vue statistique, ce qui évidemment ne va pas mettre du baume au cœur de ceux qui sont en bas
de l'échelle des revenus et des moyens. Mais malgré tout, d'un point de vue statistique, la France est l'un des pays les plus égalitaires, est le pays le plus redistributeur et est l'un des rares où les inégalités n'ont pas cru. Et puis, il faut quand même constater aussi qu'il y a des pays où ça va. On a listé tous ceux où il y avait eu des révoltes. On ne regarde jamais en France beaucoup les pays où ça va. Moi, je pense que ce serait intéressant de le faire, ne serait-ce pour voir quelles sont leurs recettes. Alors, on dit toujours, oui, mais c'est différent parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont petits. Mais enfin, regardez le Canada, regardez la Suisse, regardez la République tchèque, regardez la Corée du Sud. Il y a des pays très différents qui ont bien sûr leurs problèmes, mais où il n'y a pas ce sentiment qu'on a pointé à juste titre, typiquement au Liban, au Chili, en France, ou bien sûr aux États-Unis, fût-ce sous des formes différentes. Donc, faut pas désespérer. On n'est pas dans quelque chose de général et de fatal, me semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Là où il y a quelque chose de français, je crois, c'est qu'il y a un sentiment, alors on le retrouve sans doute un peu au Chili et au Liban, que l'individu a en face de lui une administration qui est terriblement injuste. C'est une bureaucratie terrible, quoi. C'est-à-dire qu'elle coûte très cher, on paye de plus en plus d'impôts et en fait... Pardon ?
C'est tout le problème, il n'y en a pas.
Non, mais une bureaucratie... Pas d'État. Mais non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un vrai mensonge, ça, en revanche. Ah bon ? Non, il y a une bureaucratie qui est perçue comme telle. Regardez le début des Gilets jaunes, c'est cette taxe et c'est cette limitation de vitesse.
On parlait du Liban.
Au Liban, bien sûr. Non, mais au Liban, vous avez le sentiment, pour des raisons qui sont différentes, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Ça, on le sait, c'est compliqué. On n'est pas complètement libre au Liban comme on pourrait espérer l'être. Mais en France, typiquement, vous avez une bureaucratie dont chacun voit bien ce qu'il lui coûte, sans cesse plus. Le prix du carburant était la manifestation de ça, et ce qu'il lui coûte j'ai envie de faire du Pompidou, en emmerdement. C'est-à-dire, on a l'impression, en France, beaucoup, de payer des gens qui sont là pour vous embêter. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est une particularité française. Au-delà, je pense que ce mécontentement vis-à-vis des dirigeants, il est plus général et il tient à des évolutions, alors pour le coup, très structurelles, mais dont on voit qu'elles arrivent à la fin d'une longue évolution. Il y en a deux qui me frappent. Moi, c'est la déconfessionnalisation. Je lisais, par exemple, l'autre jour, je crois, dans Le Monde, les Gilets jaunes qui disent la convergence, etc. Bon, c'est ce qui est redouté par l'État, avec ceux qui, comme nous, n'acceptent pas. L'idée de « on n'accepte pas », mais on n'accepte pas quoi? On dit même plus qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup dans tout ça de complaintes audibles parce qu'il y a des problèmes spécifiques, mais il y a aussi un sentiment général de refus de n'être pas heureux, dans le fond. Et ça, pardonnez-moi, je pense que c'est très lié à quelque chose qui va très au-delà des problèmes triviaux qu'on a évoqués et qu'il faut traiter et qui mérite d'être traité et qu'il faut pas mépriser. Mais il y a quelque chose qui a disparu, c'est toutes ces religions qui, en fait, envoyaient le message qu'on n'était pas forcément là pour que tout aille bien sur Terre parce qu'il y avait un horizon derrière. Pardonnez-moi, mais je pense que à partir du moment où il n'y a plus de religion, à partir du moment où il n'y a plus d'horizon qui va au-delà de la vie de tous les jours, les gens se disent: c'est maintenant qu'il faut que ce soit bien fait, il faut maintenant que tout aille bien. Vous voyez, par exemple, on n'accepte pas, on dit même plus qu'on n'accepte pas. Et puis, il y a en face, alors quelque chose qui est peut-être un peu français, mais pas seulement, il y a quand même depuis 25 ou 30 ans, une sorte de démurgisme des dirigeants qui promettent qu'on va guérir les écrouelles. Alors, c'est eux pratiquement qui se sont substitués à la religion d'antan. Et donc, évidemment, devinez quoi, les gens voulant avoir tout maintenant, sans même exactement savoir de quoi il s'agit, puisqu'il n'y a plus d'au-delà, et les dirigeants promettant que tout est possible et qu'on va s'en occuper, et naturellement ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible, on se retrouve dans une espèce d'impasse qui condamne à la frustration. Encore une fois, je ne méprise pas, je ne néglige pas la réalité d'un certain nombre de problèmes spécifiques, mais je pense qu'il y a derrière quelque chose qui est bien plus grave, c'est qu'on nous a fait des promesses qui ne sont pas tenables, or il faut les tenir puisqu'il n'y a plus de promesses d'au-delà.
Gérard Courtois, sur ce dossier spécifiquement français de l'hôpital public et sur ce malaise étudiant qu'on a entendu s'exprimer cette semaine, d'abord, est-ce que c'est le même genre de réponse? Est-ce que c'est le même genre de dossier et de malaise?
J'y viens dans un instant. Je vais quand même dire que quand je suis pas d'accord pour dire que les gens ne savent même plus contre quoi ils protestent ou ce qu'ils refusent ou ce qu'ils n'acceptent pas. Ce qu'ils n'acceptent pas, à tort ou à raison, je pense à tort dans bien des cas, c'est la dégradation d'un certain nombre, soit de services publics, de services aux citoyens, élémentaires, l'éducation, qui ne répond plus à sa promesse d'émancipation individuelle, ou plus assez bien, la santé, dont on sait que, voilà, le cri d'alarme des patrons hospitaliers récents, parmi bien d'autres cri d'alarme démontre qu'il y a effectivement une dégradation, même si le système hospitalier français reste très bon, par comparaison avec bien d'autres, c'est évident. Mais il y a une dégradation, et il y a une dégradation. Alors après, on peut considérer que c'est une défense corporatiste d'acquis sociaux, mais il y a des services sociaux et des acquis sociaux qui sont dégradés ou menacés, en l'occurrence par la réforme des retraites. Donc beaucoup de gens savent contre quoi ils protestent, contre quoi ils sont en colère. Alors la réponse politique, c'est très compliqué parce que le gouvernement est pris entre deux risques. Il est pris entre le risque du déminage permanent, et on le voit en ce moment, dans tous les... Voilà, c'est la mobilisation.
Sur l'hôpital, il va y avoir des annonces mercredi, il va y avoir des moyens déboursés.
On a payé des heures supplémentaires, une partie des heures supplémentaires qu'on devait aux policiers. On a évité de taper dans la caisse des chambres d'agriculture pour calmer un peu ce qui commençait à monter du côté du monde agricole. On prend immédiatement langue avec les syndicats étudiants pour essayer d'éviter que tout ça dérape. Bon, donc il y a un déminage permanent. Le déminage permanent, un, ça coûte cher, ou ça peut coûter cher. Deux, ça peut conduire à l'immobilisme. En contradiction fondamentale avec le credo, la marque de fabrique en quelque sorte d'Emmanuel Macron et de sa volonté réformatrice. Et puis l'autre risque, c'est effectivement contre lequel ils essaient de se prémunir, c'est que cette juxtaposition de colère finisse par se coaguler.
Daniel Cohen, puisque vous parliez tout à l'heure d'un malaise d'époque, peut-être même d'un malaise générationnel, je voudrais vous entendre sur ce malaise étudiant en France. Est-ce qu'il est vraiment, selon vous, imputable à ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, un mauvais accompagnement de l'État? Est-ce que c'est, ou sinon, en complément, la situation des loyers dans les grandes villes de France? On sait, quand on est étudiant, c'est très compliqué de se loger. Est-ce que c'est l'ambiance dans les universités françaises, ou est-ce qu'il y aurait une anxiété générationnelle, une sorte de dépression d'époque, parce qu'il y a un manque de perspective, parce qu'il y a la perception de nouvelles menaces comme la menace environnementale, climatique par exemple?
Mais il y a tout ça. La question du loyer est très importante. Philippe disait justement que quand on regarde les inégalités, ça a augmenté un peu quand même. Hein. Le 1% est passé de 7 à 10% et les inégalités patrimoniales ont aussi augmenté. Mais c'est vrai que globalement, la France se tient bien. C'est pas comme ça que les gens le vivent. C'est sans doute que les statistiques sont pas bonnes. Il faut arrêter de dire les gens sont idiots, ils voient pas les chiffres. Un des grands vecteurs des inégalités, c'est en effet ces inégalités territoriales. On l'a vu avec les gilets jaunes, les gens sont chassés, les classes populaires ont été chassées des usines, puis des centres-villes. Ils se retrouvent loin des centres parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, et ils découvrent que dans cette solitude territoriale nouvelle, on annule les services publics, ils ont de plus en plus de mal d'être connectés, et là on voit un vecteur très profond du ressentiment des gilets jaunes. Aujourd'hui, ça n'est pas un acte 2 des gilets jaunes qui se dessine, c'est l'autre partie de la population qui n'avait pas vraiment été entraînée dans le mouvement des gilets jaunes, qui étaient ces classes populaires et moyennes inférieures déclassées, sorties des villes. Ce sont les gens qui sont dans les villes, qui exercent leur métier dans les villes, l'autre c'était plutôt les transporteurs routiers, les gens, on va dire, déterritorialisés. Là c'est dans les villes, les étudiants, c'est en cela que c'est vraiment autre chose qui se dessine et qui montre la globalité du problème. Le gouvernement a réagi aux gilets jaunes en baissant les impôts, il y a 17 milliards de baisse d'impôts et de taxes qui a été consenti dans les services publics et dans les universités. On se dit, en fait, c'est de l'argent en moins pour nous, c'était une occasion de revaloriser, et le gouvernement est comme quelqu'un qui a une couverture trop petite, là, et qui est sans cesse en train de la monter, de la descendre, il n'arrive jamais à trouver le juste milieu. Par rapport aux étudiants, aller dans les amphis surchargés, on n'arrive pas à s'asseoir, il y a quelque chose qui ressemble aux situations d'urgence dans les urgences des hôpitaux.
Ça s'appelle aussi la démocratisation des études supérieures.
Mais sauf qu'il y a chaque année, je ne sais plus combien, 30 000 étudiants de plus, et la dépense par étudiant, depuis 10 ans, ne cesse de baisser. Même chose, sans doute, dans le ressenti des santé, en tout cas dans certains moments, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation, c'est un peu ce que disait Gérard, l'éducation et la santé, ce sont les deux grandes mamelles de la demande sociale au XXIe siècle. On n'est pas en train de parler, je ne sais pas quoi, de la RATP, etc. C'est le grand vecteur de consommation. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis où ces deux dépenses explosent, parce que c'est là qu'est la demande sociale. Et face à cette demande sociale, on est dans une logique d'économie permanente au lieu d'accompagner cette demande sociale en disant mais oui, vous voulez des universités qui fonctionnent parce que c'est là que vous mettez l'espoir de vos enfants, on va y mettre des ressources, même chose pour les hôpitaux. Donc il s'agisse pas, c'est l'erreur de ces gestions paramétriques de ces grands secteurs de dire on va juste essayer de faire là les économies, l'ONDAM va au fil du rasoir gérer l'évolution des dépenses, alors que c'est là que les gens attendent de l'État qu'il soit présent, et particulièrement là je reviens en France où on a cette tradition que l'État porte bien ses services publics.
Christine Ockrent, en conclusion de cette première partie.
Ce n'est pas vraiment une conclusion, mais il y a quelque chose là aussi de très contradictoire dans les réactions des Français. Je souscris évidemment à ce que vient de dire Daniel, d'autant qu'il connaît infiniment mieux que chacun d'entre nous, je crois, le monde de l'éducation. J'ai été frappée dans un tout autre registre. L'entretien que le président de la République a accordé à The Economist a fait énormément de bruit, mais il remet en particulier en cause le principe des 3%. Donc, la limitation, n'est-ce pas, du déficit budgétaire imposé par la France, il faut quand même le rappeler, au moment de Maastricht. Et donc on se dit que, bien évidemment, avec ce syndrome de la couverture trop petite qu'on fait monter et qu'on fait descendre, il faut lâcher de l'argent. J'étais très frappée à propos de la santé publique d'entendre l'un des professeurs de médecine qui accompagnait ou qui menait d'ailleurs le mouvement de protestation expliquer qu'en fait, il faudrait que le budget de la santé publique en France augmente de 4% par an pour maintenir le niveau actuel des dépenses. Et donc, il sera intéressant de voir jusqu'à quel point la France va remettre en cause ce principe des 3% de façon à pouvoir financer éventuellement un épanchage d'argent public. Et là, semble-t-il, les Français sont pas contents non plus. Alors, parce qu'ils se disent, oh là là, on va encore creuser les déficits. Donc, on retrouve...
En 10 secondes sur ce point-là, Philippe Manière, vous voulez absolument réagir.
En 10 secondes, pardon. Non, mais c'est bien mignon de dire que les 3%, c'est d'un autre siècle. Mais enfin, on est les seuls.
J'ai jamais dit ça. D'abord,
c'est Emmanuel Macron qui l'a dit.
Non, d'abord, je ne suis pas mignonne.
Christine, je parle d'Emmanuel...
Enfin, sauf peut-être...
Christine, je parle d'Emmanuel Macron. Vous êtes très mignonne aussi, mais je parlais de lui. C'est lui qui dit ces 3%, c'est d'un autre siècle. La vérité, c'est qu'on dit que c'est d'un autre siècle parce qu'on est les seuls qui n'ont pas été fichus de les respecter depuis le début. Et on peut pas dire le matin qu'on veut parler fort au nom de l'Europe et l'après-midi qu'on viole ces règles très tranquillement depuis 25 ans et que la nécessité va nous obliger, comme vous le suggériez, à la violer encore plus et encore pendant plus longtemps. Donc il y a quand même une impasse sur ce sujet-là.
Allez, on va passer à notre deuxième thématique du jour. Cette semaine, quatrième année de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, tandis que Recep Tayyip Erdogan, le président turc, renvoie les djihadistes étrangers dans leur pays et qu'un rapport dresse le bilan de 40 années de terrorisme islamiste.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
C'est un rapport qui ne donne pas le remède, mais qui a le très grand mérite de présenter parfaitement le tableau clinique. 40 ans de terrorisme islamiste, c'est le titre de cette étude de la Fondation pour l'innovation politique que dirige Dominique Régnier, l'un de nos fidèles visiteurs du dimanche. Quantifier et localiser précisément le phénomène djihadiste de ses origines en 1979 à nos jours. Presque 34 000 attentats. Plus de 160 000 morts, 81 pays touchés, mais avec des écarts considérables. Plus de 44% des attentats commis au Moyen-Orient et donc des victimes majoritairement musulmanes. 30% d'attentats commis en Asie du Sud, Afghanistan, Pakistan, Inde. Plus de 20% en Afrique subsaharienne, Europe et Russie, loin derrière avec seulement 0,9% des attentats. Mais dans ce secteur européen, la France, la plus touchée, avec 71 attentats et 317 morts. Une étude qui montre clairement la domination de l'État islamique dans ce morbide palmarès et l'intensification des actes ces dernières années, l'EI ou Daesh en tête avec plus de 52 000 morts devant les talibans, Boko Haram et Al-Qaïda. Mais au fond, peu importe l'acronyme, et c'est ce que nous enseigne aussi cette étude de la Fondapol. L'essentiel reste ce fait commun avec lequel nous devons désormais tous composer, quel que soit notre pays ou presque, la possibilité de l'attentat islamiste à tout moment. Poser les chiffres, les faits, pour espérer mener un débat sans tabou face à un fléau conçu justement par ces théoriciens pour nous empêcher de débattre rationnellement, mais au contraire nous conduire à nous diviser entre clans identitaires, à grand renfort de mesures simplistes et souvent extrêmes.
ou comment le populisme et le terrorisme peuvent se nourrir mutuellement dans une spirale mortifère, écrivait cette semaine le journaliste Stéphane Albouy. Alors, djihadisme, le mal du siècle, en France, c'est en 2015 qu'il est vraiment rentré dans nos vies et dans nos cauchemars. Le ministre de l'Intérieur de l'époque s'appelait Bernard Cazeneuve et il a raconté cette semaine sur France Culture ce moment de bascule de notre petite histoire hexagonale.
Cette intuition qui s'empare de moi comme un pressentiment le 2 avril 2014 est fortement accentuée par le message que me livre mon prédécesseur au moment de la passation de pouvoir. Emmanuel Valls me dit « Il y a beaucoup de jeunes qui partent sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie, c'est une croissance très importante. Nous n'avons pas les outils législatifs pour faire face à ces départs, nous sommes dans une course contre la montre. Nous avons par ailleurs perdu près de 13 000 emplois dans les services de police et de gendarmerie, dans les services de renseignement. Donc il y a course contre la montre à mener et un arsenal antiterroriste à reconstruire. Et c'est ce qui va m'obséder dès les premières heures de mon arrivée Place Beauvau et jusqu'au moment de mon départ pour Matignon, rehausser les moyens de nos services pour leur permettre de faire face à un niveau de menace exceptionnellement élevé.
Bernard Cazeneuve, mercredi matin, au micro de Guillaume Erner, dans les matins de France Culture. Christine Ockrent, qu'est-ce qui a changé en 2015 dans l'histoire française et dans la vie quotidienne des Français?
Mais c'est bien évidemment le sang répandu de façon aveugle, organisée, et des attentats, et on l'apprendra au fur et à mesure, perpétrés par des Français. Et là où cette étude là de la fondation que dirige Dominique Régnier est tout à fait remarquable, c'est qu'elle prend le temps long, si j'ose dire, du terrorisme islamiste, c'est-à-dire qu'elle remonte à la guerre d'Afghanistan,
en 79,
donc jusqu'à l'an dernier, et qu'elle couvre donc un théâtre qui va de l'Indonésie à la France. Il n'y a pas seulement la France. La raison pour laquelle cette étude est particulièrement significative aujourd'hui, c'est bien évidemment la stratégie de la Turquie. Qui est elle-même impactée par le terrorisme islamiste. Il y a d'ailleurs dans les prisons turques aujourd'hui, je crois, quelques 1200 djihadistes. Et puis la Turquie, avec son offensive militaire au nord-est de la Syrie le mois dernier, a véritablement mis un coup de pied dans cette espèce de fourmilière terroriste. Donc il y a une anxiété d'autant plus grande qu'on ne sait pas où ils sont passés. Il y avait énormément d'Occidentaux dans les camps surveillés, les camps de prisonniers surveillés par les Kurdes de Syrie. On ne sait plus exactement qui contrôle quoi, ou plutôt qui ne contrôle plus rien. Et donc il y a aujourd'hui cette anxiété particulière due à la dispersion très vraisemblable de toutes sortes de gens. Et tout au long de cette semaine, la Turquie a renvoyé dans leur pays d'origine à peu près une trentaine d'Occidentaux, surtout des Allemands. Et donc là, c'est évidemment aussi pour Erdogan une forme de riposte ou même de revanche vis-à-vis des Européens qui avaient critiqué cette opération militaire. Mais je crois qu'il est très important, et c'est tout l'intérêt, encore une fois, de l'étude de la Fondation, de situer ça dans le temps long et de ne pas voir cela uniquement comme un phénomène français, même si, comme vous le rappeliez, la France a été le pays le plus frappé.
Dans une zone qui ne concerne en effet que 0,9% des attentats commis.
Oui, mais là aussi, je veux dire, les chiffres, à un moment donné, ça ne peut rien dire. Il y a quand même un chiffre positif, si j'ose dire, c'est que le flux de Français partant ou souhaitant rejoindre ces mouvements, c'est énormément tari. Mmh. Alors que ces mouvements terroristes continuent. Il ne faut pas penser une seconde que la mort d'El-Baghdadi a mis fin au soi-disant État islamique.
Il y a eu d'ailleurs dans les jours d'après des attentats dans la zone sahélienne et notamment au Mali et au Burkina Faso.
Et puis il y a des franchises, ce sont des systèmes de franchisés. Al-Qaïda d'ailleurs n'a pas disparu non plus. Et d'ailleurs Al-Qaïda contrôle toujours une zone au nord-est de la Syrie. Donc ce serait une illusion de se dire qu'à chaque fois qu'on tue un chef, tout cela disparaît.
Gérard Courtois, je vous ramène néanmoins à la France. Pourquoi est-ce que la France est le pays le plus touché d'Europe ?
D'une part parce que elle a été active sur le terrain de la guerre proche-orientale et en Syrie en particulier, et qu'elle elle a été vécue par, même si les intentions belliqueuses de François Hollande ont été freinées ou stoppées plus exactement par le président américain à l'époque, mais elle a été vécue, et ça a été un des prétextes invoqués par les auteurs des attentats de 2015 notamment, comme un ennemi affiché et déterminé de l'État islamique. Bon, l'autre raison, on va pas se cacher non plus, c'est qu'elle accueille une communauté musulmane importante, très importante, je ne sais plus si c'est la plus importante d'Europe avec l'Allemagne, ou en tout cas pas très loin. Voilà, maintenant, ce qui me frappe dans la situation actuelle, Christine évoquait cette menace en quelque sorte importée par la dissémination, potentiellement importée par la dissémination des combattants djihadistes de l'État islamique, mais tous les spécialistes de la sécurité, et j'écoutais Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur là il y a quelques jours, qui pointait une autre menace, qui est la menace dite endogène, c'est-à-dire la radicalisation, notamment en prison, Français, musulmans, qui, ou convertis, souvent, et c'est en général les plus déterminés ou les plus décidés à passer à l'acte, éventuellement. Donc cette menace endogène de Français radicalisés, dont Laurent Nunez disait qu'elle est beaucoup plus compliquée à détecter, beaucoup plus difficile à détecter. On connaît les ordres de grandeur. Hein. Il y a 9000 personnes qui sont répertoriées dans ce fichier qui s'efforce de détecter les phénomènes de radicalisation. Sur ces 9000, il y en a 3000 qui sont considérés comme très dangereux, plus dangereux, et qui sont, semble-t-il, suivis très étroitement par la DGSI, la Direction de la Sécurité intérieure. Ça, c'est une chose. Et puis, on a à peu près 500 personnes, individus, incarcérés dans les prisons françaises pour fait de terrorisme, d'une manière ou d'une autre, et on a un millier, d'après les chiffres de l'administration pénitentiaire, un millier de prisonniers de droit commun qui sont incarcérés et qui sont considérés comme radicalisés. Donc voilà, on a là une espèce de nébuleuse de menaces qui sont des menaces qui ne viennent pas de l'extérieur, mais qui sont jugées extrêmement extrêmement dangereuses ou difficiles à contrer.
Menace endogène, et Gilles Kepel qui en parlait cette semaine dans Le Monde, Philippe Manière, qui nous invitait à repenser ce qu'il appelle la problématique de la rupture djihadiste, qui est au fond toujours commune à tous les attentats, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda ou un acte isolé. Tout commence toujours par cette rupture culturelle, c'est-à-dire ce moment où l'individu décide de rompre avec les valeurs républicaines d'un pays ou les valeurs communes.
Oui, c'est pour ça qu'évidemment, ça n'est pas le principal responsable, mais notre pays a sa part de responsabilité au sens où nous avons manifestement échoué à intégrer suffisamment tous nos concitoyens, et je ne parle pas seulement d'ailleurs de nos concitoyens, comme on dit aujourd'hui, de culture ou de confession musulmane, mais plus généralement, et ça nous ramène un peu à la première partie de notre échange, plus généralement, il y a des tas de gens qui ne se sentent pas inclus, qui se sentent en état d'anomie, de déshérence, on appelle ça comme on veut. Et pour certains, il est psychologiquement irrésistible de trouver une forme d'allégeance, d'identité, de substitution, en tout cas qui vous permette de vous sentir quelque chose, quelqu'un, etc. Donc c'est vrai que nous avons affaire à des ennemis qui sont, et ça Gilles Kepel le dit très bien, décidés à abattre l'Occident, et il montre très bien comment la doctrine de ces mouvements explique qu'il faut en quelque sorte faire de l'entrisme jusqu'au moment où on peut prendre le contrôle. Donc on a affaire à des ennemis qui sont résolus et qui en gros ont annoncé la manière dont ils veulent en quelque sorte imposer leur vue.
Aux théoriciens type Al-Baghdadi.
Oui, c'est ça. Et puis, enfin, Al-Baghdadi, mais il y a eu des théoriciens parmi les frères musulmans. Enfin, dans l'histoire que Gilles Kepel raconte très bien de cette mouvance, il y a des gens qui ont écrit très explicitement le plan, en quelque sorte. Bon, donc ça, ce sont nos ennemis. Par définition, quand quelqu'un veut vous abattre, ce sont nos ennemis. Mais je crois qu'il ne faut pas faire l'économie des raisons pour lesquelles, effectivement, la France est concernée. Alors, il y a des raisons, Gérard le disait tout à l'heure, qui tient à l'importance de la communauté musulmane en France, qui est la plus importante, plus que l'Allemagne, si on le rapporte à la population. Hein, c'est donc là où on est. Bon. Donc forcément, quand vous avez un très grand nombre de gens très variés, dont évidemment l'immense majorité ne pose strictement aucun problème et n'a aucune vision factieuse, vous avez également, par l'effet des chiffres, un certain nombre de gens qui sont susceptibles de tomber de l'autre côté, j'allais dire. Il y a aussi le fait que nous avons en France une particularité, c'est que nous accueillons également la troisième ou quatrième, selon qu'on compte Israël ou non, communauté juive du monde. Et ça, c'est très important, ça s'est vu dans certaines banlieues. Il y a une forme, on le sait, cette espèce de projection du conflit israélo-palestinien qui, à mon avis, n'explique pas tout. En tout cas, il y a un antisémitisme d'une partie de nos concitoyens musulmans qui est quasiment culturel, qui est transmis de génération en génération. Encore une fois, je ne généralise pas, mais on a bien vu ça, Sarcelles, etc. Là, j'y vais à la serpe, mais on voit bien qu'il y a une particularité française. Il y a beaucoup d'autres pays où de telles rivalités entre groupes ne pourraient pas s'exprimer de la même manière, parce que tout simplement les nombres sont très inférieurs. Donc il y a une ligne de faille française, et puis il y a la ligne de faille de la laïcité. La France a une tradition, une vision du monde qui est très sui generis sur ces sujets-là. Et donc on voit bien que du point de vue d'un musulman identitaire, radicalisé, vindicatif, appelez ça comme vous voulez, la France est un terrain sur lequel se joue une partie de la bataille qu'il compte bien livrer à l'Occident et qu'il entend bien gagner. Et encore une fois, ça renvoie un peu à nos insuffisances en termes d'incapacité à intégrer et offrir une identité suffisante pour que les gens cherchent pas une identité de substitution. Ça renvoie évidemment aussi à la résolution de nos ennemis.
Daniel Cohen.
Oui, pour reprendre d'ailleurs cette étude de Fondapol qu'on a déjà citée, qui est effectivement très intéressante parce qu'elle donne, comme disait Christine, le temps long de cette évolution, mais aussi surtout la dimension planétaire de cette évolution. Donc le chiffre que vous avez rappelé au départ, c'est que 95% des attentats sont faits in situ, si je puis dire, en Afghanistan, au Pakistan, au Moyen-Orient, en Afrique, en Algérie aussi à un moment donné. Donc c'est dire d'abord que ce qui se joue autour de cette question d'islamisme, c'est l'après-guerre froide, c'est vraiment l'après la chute du mur. Ça commence en réalité avec la défaite russe en Afghanistan, avec les talibans qui prennent le contrôle du territoire et puis qui progressivement vont irradier, au fond certains désœuvrés, aller chercher ailleurs des zones de conflit, mais au fond remplaçant progressivement, avec le paradoxe que tout le monde sait qu'au départ ils avaient été armés par la CIA, mais remplaçant progressivement l'URSS, l'ex-URSS, dans le conflit avec l'Occident, dans les zones où ce conflit se dessine. Moyen-Orient, Asie centrale et en Afrique depuis quelque temps. Donc c'est quand même ça qu'il faut d'abord retenir. Et ce gros massif d'islamisme ancré dans les territoires où se jouent des guerres civiles ou des guerres entre différentes formes de d'islam, les sunnites et les chiites, ce qu'on voudra, s'exporte, mais peu, en fait. Bon, il y a des attentats, l'attentat à Paris contre le métro pendant la guerre d'Algérie, enfin pendant la guerre civile algérienne, à Tati pendant au moment du conflit libanais autour du Hezbollah. Donc il y a des formes d'exportation. Évidemment, le 11 septembre, moment culminant de cette exportation du conflit hors les murs pour porter le fer contre l'Amérique ou contre l'Occident. Tout ça fait quand même que c'est une exportation, on va dire quand même très feutrée, de ce qui se passe en gros dans le terrain. Et puis il y a la deuxième phase, et le Bataclan est un moment un peu charnière pour ça, et les Français sont première ligne de ce basculement, qui est d'une forme d'exportation du conflit hors les murs. On assiste à une importation dans nos murs de ce conflit, exactement ce que disait Philippe, auprès d'une population d'origine musulmane, pas toujours, il y a beaucoup de convertis dans cette histoire, souvent, pour reprendre les analyses d'Olivier Roy, de la deuxième génération, c'est-à-dire qui fait l'expérience que le travail, le labeur de la première génération ne leur ouvre pas les voies de l'intégration, souvent d'ailleurs radicalisés hors les murs de la communauté, très peu en fait ont fréquenté les mosquées avant de passer à l'acte, il y en a quelques-uns, mais c'est pas du tout le phénomène principal, c'est souvent des radicalisations soit en prison, ce que disait Gérard, soit tout simplement derrière Internet, de gens qui passent brutalement d'une vie souvent de débauche à une vie de sainteté recherchée, donc quelque chose qui ressemble à une rupture intérieure beaucoup plus qu'à l'importation d'un conflit. C'est ces deuxièmes actes qu'on est en train de commenter, mais qu'il ne faut surtout pas confondre avec cette vision d'ensemble qu'on a. Et on a un peu tendance à dire, voilà, ça pète de partout, et au fond, ça va péter chez nous. Je crois qu'il faut vraiment être très très attentif à distinguer cette continuation de la guerre froide par d'autres moyens, de ce qui se passe chez nous, et qui va prendre des figures de style qui leur sont proposées, qui sont souvent sans aucune connexion avec la réalité sur le terrain dont cette rhétorique est importante.
Christine O'Krent, face à ce qu'on a appelé pour le titre de cette émission le mal du siècle, nous n'avons que la rationalité des rapports ou de la sagesse que vient d'exprimer Daniel Cohen.
La rationalité sûrement et la laïcité sûrement aussi et une réforme de l'islam français. Parce qu'on paie aussi le fait d'avoir laissé le financement de l'islam en France à des pays ou à des mouvements. Les frères musulmans ont pénétré l'islam français très indépendamment de la guerre froide, les salafistes aussi. Et donc il y a là, je crois, un chantier de plus qu'Emmanuel Macron voulait ouvrir et qu'il est urgent, me semble-t-il, de cristalliser et de réaliser.
Gérard Courtois.
D'un mot, une des spécificités françaises dans ce paysage qu'on a décrit, c'est que la France est intervenue au Mali pour stopper une offensive djihadiste en 2013 et que ça en fait un
ennemi.
Un ennemi encore plus désigné et on le voit avec les difficultés à la fois de l'opération Barkhane, 4500 hommes quand même qui sont présents au Mali et qui sont sur la défensive 7 ans après la grande victoire qui avait fait dire à François Hollande que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc ces forces-là sont sur la défensive, on l'a vu avec les attentats récents et le 23e ou 28e, je crois, mort français en opération au Mali, mais également la MINUSMA, les forces, enfin le dispositif de l'ONU, et on voit bien que l'armée malienne n'est pas en capacité de prendre le relais. Donc, et on est là en première ligne. M'a frappé la remarque du chef d'état-major, le général Lecointre, à propos de la situation au Mali, se disant raisonnablement pessimiste. Disant qu'il faudra des années pour sécuriser cette zone de la boucle du Niger. Donc là, on est pour le coup en première ligne.
Philippe Manière.
Oui, le Mali n'est qu'un des pays menacés. On sait que toute la zone, en réalité, est particulièrement propice aux menées islamistes parce qu'il y a des grandes zones désertiques, parce que les frontières ne peuvent pas être gardées et qu'elles ne correspondent pas à grand-chose, parce que les pouvoirs sont faibles. Et puis aussi parce que, malheureusement, le développement n'est pas venu en Afrique et que donc l'idée que il y a une allégeance alternative, qu'elle est nécessaire et que de toute façon on n'a rien à perdre à la choisir parce que le reste ne fonctionne pas, est au moins aussi vendable en Afrique que dans nos zones de non-droit, malheureusement. Je voudrais quand même juste préciser, Gérard, que tout ça est vrai. Les islamistes qui s'attaquent à la France n'ont pas attendu notre présence au Mali pour s'attaquer à la France. Hein. Donc ça leur donne une raison, entre guillemets, supplémentaire, si vous voulez. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faire très attention dans cette matière parce que nous avons nos défauts et nos turpitudes et nos culpabilités, en particulier dans notre incapacité à tenir la promesse républicaine. Là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'école, sur etc. C'est certain. Enfin, ne nous chargeons tout de même pas trop du fameux fardeau de l'homme blanc. Nous sommes attaqués par des gens qui, de toute manière, nous attaqueraient, même si nous faisions bien le travail. Nous leur facilitons
facilitons le recrutement, mais ce sont nos ennemis ontologiques. Ils n'ont pas besoin de ce que nous fassions quoi que ce soit mal pour vouloir nous tuer.
J'ai bien compris l'intervention. Ça vous répond. Ce que je pointais, c'était la difficulté de transformer cette intervention en une pacification durable.
Alors, il y a le volet français de ce dossier, de cette thématique djihadiste, et puis il y a le volet international ou géopolitique, Christine Ockrent, avec le jeu très pervers, au fond, que joue dans cette affaire Recep Tayyip Erdogan.
Oui, enfin, il estime qu'il a des cartes qu'il doit utiliser immédiatement pour sa propre survie politique. Il faut bien voir que la Turquie a absorbé quelque 4 millions de réfugiés syriens. Ça pèse un poids très lourd sur son économie. Tous les partis politiques récemment ont fait campagne contre ces réfugiés. À la limite, il y a presque des pogroms dans certaines zones de Turquie du sud-ouest, en quelque sorte. Donc Erdogan joue une partie politique intérieure, mais il veut aussi, d'une part, épargner son propre pays de la menace djihadiste, parce que Daesh a aussi commis des attentats en Turquie. Il veut aussi, comme je le disais tout à l'heure, prendre une certaine revanche, et surtout vis-à-vis de la France. Il était très frappant qu'à Washington, mercredi dernier, où il était reçu en grande pompe par son ami Donald Trump, il s'en est pris nommément à Emmanuel Macron à propos de l'OTAN. Mais enfin, tout ça est quand même extrêmement connecté. Et puis, il a une mèche à retardement, qui sont évidemment ces mêmes réfugiés. Madame Merkel avait conclu cet accord en 2015. L'Union européenne a payé 3 milliards d'euros et la Turquie demande davantage d'argent pour garder ces réfugiés syriens. Mais il est évident, et ça a été le cas dans les îles ioniennes au mois de septembre, qu'à partir du moment où ces réfugiés ne se sentent plus en sécurité en Turquie, ben, ils essayent évidemment de regagner l'Europe. Donc Erdogan estime qu'il a d'un côté les djihadistes et de l'autre côté les réfugiés. Et donc qu'il est en position de force vis-à-vis de l'Europe. Par ailleurs, il joue une partie extrêmement compliquée par rapport à Vladimir Poutine et Assad, qui est finalement le grand gagnant. Le régime de Damas est le grand gagnant de l'opération turque, ce qui est paradoxal alors que leurs relations sont très compliquées, et donc l'armée syrienne a regagné du territoire grâce à cette opération turque. Et on est là aussi dans une situation très paradoxale où il est très possible que ce soit Damas qui contrôle désormais des prisonniers djihadistes et les rapatrie à Damas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait? Y compris des Européens et y compris des Français. Il faut quand même rappeler que nous n'avons plus aucune relation, et pour cause, avec le régime de Damas.
Avec Bachar el-Assad. Ce qui est très frappant lorsque l'on lit attentivement le rapport de la Fondapol, en effet, c'est la mondialisation de ce fléau djihadiste et le fait que nous y sommes tous confrontés désormais avec des réalités différentes, mais que nous y sommes tous confrontés aujourd'hui. On met cela en parallèle avec le fait qu'on parle d'une crise profonde du multilatéralisme, d'un multilatéralisme qui n'existerait plus du tout comme il a pu exister auparavant, alors même Daniel Cohen, qu'on pourrait être confronté à un fléau à affronter ensemble de façon collective.
Bah, c'est tout le paradoxe de l'époque, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une mondialisation qui peut-être atteint d'ailleurs ses limites, on le voit y compris dans les statistiques du commerce international, on voit que tout ça est en train de stagner, mais il y a le réchauffement climatique, il y a toutes sortes de défis qui font que normalement on devrait faire monter les instances de coopération internationale, et le populisme dont on parlait, la montée de ces gouvernements illibéraux, que ce soit Trump, Erdogan ou d'autres, fait que c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire, c'est-à-dire on a un repli identitaire, ce qu'on voudra, mais on a un repli qui fait que les institutions internationales sont fragiles, l'OMC est fragile, on n'a pas renouvelé les juges qui permettent de régler les différends, l'OTAN est en crise, bon tout ça c'est du Trump à grande échelle, et on voit partout se déliter cet ordre. Alors je disais que c'était lié à la guerre froide, on voyait quand même que la guerre froide avait eu ce mérite de geler beaucoup de conflits, parce que chacun était garant de son camp, et quand l'URSS, il me semble, a cessé passer d'être le gardien de cet équilibre de la terreur, eh bien, on a vu les États faibles s'affaiblir davantage encore, sans parrain pour les défendre, et c'est là-dedans quand même que l'islamisme, le djihadisme s'est inséré. Donc tout ce que Christine vient de rappeler sur ce qui se passe au Moyen-Orient, enfin, n'oublions quand même jamais que c'est de ces états faibles-là que viennent se nourrir ce djihadisme, cet islamisme. Alors sur la question de savoir comment ça vient chez nous, c'est quand même très compliqué. On ne va pas refaire le match Kepel Olivier Roy, mais enfin il est quand même important. En fait, c'est sans doute beaucoup moins contradictoire qu'il n'y paraît. On peut tout à fait avoir des forces
rappeler d'offre. Peut-être et les positions. Voilà,
c'est dans un cas, Olivier Roy dira, on a en fait une islamisation de la radicalité, c'est-à-dire on a des jeunes qui veulent en découdre. Ils avaient un langage gauchiste, marxiste dans les années 60 avec des attentats terroristes au nom de Lénine et de Bakounine, je sais pas. Bon, et là maintenant, on va faire exactement la même chose, c'est cette même pulsion de violence que la société n'arrive pas à contenir et qui cherche un passe-droit qui lui permet de s'affranchir, on va dire, du sens commun pour passer à l'acte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de convertis. Puis de l'autre côté, c'est l'islam qui s'est radicalisé, qui va recruter parce qu'elle a une guerre contre l'Occident. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'opposer les deux ou dire, il y a des forces d'offre, c'est cette exportation des conflits et puis d'importation, de demande, avec une jeunesse qui a besoin de
l'économiste qui est Daniel est prêt à réconcilier l'offre et la demande. C'est pas faux.
Avec un point d'équilibre. Donc, quand Christine dit disait très justement, on voit le fait que, ne voulant pas financer les mosquées, on a laissé venir une forme de salafisme dans certaines mosquées, radicaliser les fidèles. Oui, sauf que c'est rarement dans les mosquées que sont radicalisés les jeunes qu'on voit à l'acte après. C'est soit dans les prisons, soit beaucoup plus souvent
sur Internet, une auto-radicalisation
qui montre qu'il y a une demande pour reprendre. Il y a une demande. On est en quête de quelque chose qui va vous donner les moyens de passer à l'acte. Je dis pas ça pour relativiser l'un ou l'autre. Mais je trouve que ce récit que permet la Fondapol, moi, ça m'a beaucoup marqué en le lisant. C'est un, d'abord, rappeler que le centre de gravité de tout ça, il est sur le terrain, en Afghanistan et au Moyen-Orient, et maintenant en Afrique. Et deuxièmement, que l'importation se fait par des canaux qui sont beaucoup plus subtils que simplement l'exportation du discours. Ça en fait partie, mais...
Philippe
mais
Manier.
Il y a une auto-radicalisation.
Sur l'opportunité de financer un culte, je trouve ça assez... Enfin, voilà, ce serait mieux que ce culte ne fût pas financé par des puissances étrangères. Ça, c'est un fait, mais c'est aux fidèles de s'organiser. Moi, je vois pas très bien comment on peut mettre en place un système de financement par l'État ou organisé par l'État. Je suis dubitatif, je vois bien le problème, je suis pas sûr qu'on puisse le régler selon nos canons classiques. S'agissant de la coopération internationale, je vois bien qu'elle est défaillante dans beaucoup de domaines, bien sûr, on est d'accord, Daniel, mais sur ce sujet, on a quand même affaire à des questions qui sont intrinsèquement de la sécurité intérieure et des questions de sécurité et d'ordre et de service, etc. Et là-dessus, pour le coup, tous les spécialistes disent qu'on coopère vraiment bien. On coopère vraiment bien avec ceux avec qui on doit coopérer. Alors, il y a toujours des États, en particulier au Moyen-Orient, avec lesquels il peut y avoir des problèmes, des frustrations. Mais principalement, les États concernés par le terrorisme coopèrent bien.
Et surtout au niveau européen.
Et surtout au niveau européen. C'est quand même finir sur une bonne nouvelle.
Finissons sur une bonne nouvelle, absolument.
C'est mieux que le contraire.
Voilà, merci beaucoup pour cet optimisme de fin d'émission. Merci à tous les quatre, Philippe Manier, Daniel Cohen, Gérard Courtois et Christine Ockrent. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. À Luc Jeanrenaud donc qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. La semaine prochaine, nous recevrons Bertrand Badi, Monique Cantos-Perber, Manuel Cervera-Marzal et Dominique Régnier. Tout de suite et comme toujours, vous avez rendez-vous avec les bonnes choses de Caroline Brouet. Aujourd'hui au menu, les saveurs de la Réunion. Quant à Marc Weizmann, dans Signe des Temps, il revient sur l'affaire Polanski. Excellente semaine à tous, à l'écoute de France Culture.